cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Louis Lortie.
Bonjour.
Vous venez de publier, il y a quelques semaines, un peu plus, quelques mois je crois même, l'intégrale des années de pèlerinage de Liszt chez Chandos. Chandos c'est un peu votre deuxième maison, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, un label avec lequel vous travaillez main dans la main depuis maintenant pas mal d'années et pour lequel vous avez enregistré un nombre d'albums assez impressionnant. Alors on parlera un petit peu peut-être de tout ça, on va peut-être commencer directement par le cœur du sujet, c'est ces années de pèlerinage. C'est vrai que les pianistes qui décident d'enregistrer l'intégralité de cette pièce assez immense, une sorte d'Himalaya pour tous les pianistes, sont assez rares finalement. Il y en a évidemment, il y a quelques intégrales dans l'histoire du disque. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça, d'une part, et deuxièmement, le faire aujourd'hui?
Oui, ben moi, je me vois surtout un peu comme les compositeurs. Je fais beaucoup de choses sur commande, c'est-à-dire qu'on me propose des choses. Et je dis oui ou non. Bon, là, il y avait évidemment l'année Liszt qui arrivait à grands pas. Et puis surtout, au niveau du concert, on m'a demandé de penser à quelque chose d'un peu inhabituel, quelque chose d'assez 19e siècle, pour célébrer le bicentenaire de Liszt, mais pas le programme habituel où il y a un peu de rhapsodie hongroise, un peu de ci, un peu de ça, les programmes virtuoses. Quelque chose d'un peu plus exigeant. Et un peu plus complet, un peu plus. Alors j'ai réfléchi, puis je me suis dit, au fond, comme j'avais joué toutes les années de pèlerinage séparément, je me suis dit, ça ferait un truc un peu opératique, et puis ça donnerait une autre idée de Liszt, je crois, aux gens qui viennent au concert, que le Liszt qui fait un petit peu de ci, un petit peu de ça. Il y a, évidemment, c'est un peu comme un journal qu'il aurait tenu musicalement pendant sa vie, et puis on passe aussi de sa période de jeunesse très romantique, où il était un peu partout acclamé comme virtuose. Donc, des œuvres aussi plus faciles d'accès. À la fin de sa vie, les années, on pourrait appeler ça l'album romain, finalement. Le troisième livre, c'est le livre romain, où il est devenu labelliste, où il se pose beaucoup de questions sur l'avenir, sur son avenir, mais aussi l'avenir de la musique, où il, on pourrait presque dire même où il détruit ou déchiquette la tonalité comme on la connaissait jusque-là. Bon, il a influencé Wagner, il a été aussi influencé par Wagner, donc c'est tout ça qu'on retrouve et plus là-dedans. Et je me disais que ce serait intéressant de faire ce parcours en concert. Donc finalement, lorsque je l'ai programmé, je crois à 90% des concerts, je fais les trois années en un seul concert. Donc c'est trois heures d'écoute, fond, justement, on parlait de Wagner, comparé à un opéra de Wagner, c'est rien. Trois heures.
Comment justement on lit un peu les deux? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de performance, presque, enfin pas presque, mais physique. Trois heures, c'est quand même et quelque chose d'intérieur.
Oui, il y a un voyage spirituel intense, en même temps.
Voilà, le corps et l'esprit, j'allais dire.
Voilà, de suivre Liszt sur ce parcours de vie, c'est aussi assez intéressant. Puis si les notes de programme sont très fouillé, ça peut être aussi fascinant pour le pour l'auditeur qui arrive un peu avant. Et même là, juste maintenant, j'ai fait pour la première fois à Bruxelles, je les ai faites avec, avec Fanny Ardant.
Oui, ce que je veux dire, j'ai vu
des poèmes de Victor Hugo. Elle lit en plus très bien l'italien, donc elle a lu Pétrarque en italien. C'était formidable. Je veux dire, pour moi, c'était aussi très, très inspirant comme une muse. C'est la première fois que je faisais ça, d'avoir une muse comme ça sur la scène.
Ça vous a fait percevoir certaines parties de l'œuvre différemment, justement, de
Oui, surtout qu'elle a choisi elle-même beaucoup des poésies, des choses avec lesquelles elle se sentait confortable et qui... Elle ne voulait pas que ça illustre nécessairement, mais qu'il y ait plutôt des correspondances, des fois même assez vagues, avec les pièces. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça nous amenait à des endroits où on ne s'y attend pas. Moi, je trouvais ça fascinant. Et en fait, elle récitait tellement d'une façon tellement extraordinaire que je ne pensais pas du tout. Parce que normalement, évidemment, je suis assis et je repasse des pièces qui vont venir après. Mais là, j'oubliais complètement. J'étais complètement transporté par cette voix magnifique.
Comment ces années de pèlerinage ont vécu, j'allais dire, avec vous tout au long de votre éducation musicale jusqu'à aujourd'hui? Comment cette œuvre, quelle place elle a?
C'est venu avec le temps. D'abord, je n'ai jamais pensé de jouer toutes les années. Mmh. C'est juste que, bon, en fait, j'avais joué la deuxième année. Je l'avais même enregistré pour Chant de Dossier il y a très longtemps. Mais c'était à l'époque où on faisait des CD qui étaient très courts. On pouvait se permettre de faire des CD de 52 minutes. Alors, ce que j'ai su par Chant de Dossier, je ne savais même pas moi-même, c'est que le disque n'était plus disponible parce qu'il était trop court. C'était pas... Donc, il était disponible... par téléchargement ou je ne sais pas quoi. Finalement, j'ai repris de toute façon. Ils m'ont demandé ce que vous voulez qu'on remette le contenu. Quand on frotte les... J'ai dit non, je vais les refaire parce qu'évidemment, après presque 20 ans, ma vision sera différente. Et puis pour moi, c'est fascinant aussi de voir ce qui s'est passé, de comparer aussi après, je crois, pour l'auditeur aussi.
Vous avez réécouté finalement?
Ah oui, j'ai quand même réécouté, mais après. J'ai réécouté d'accord. Après. Quand ils m'ont envoyé le montage final, je me suis dit, tiens, je vais quand même voir. Parce que des fois, il y a des choses, on se dit, ah, peut-être que ça, c'était mieux à l'époque, tout ça. Mais bon, c'est toujours une question de goût. Et puis la prise de son, ça varie beaucoup aussi. Je veux dire, les instruments, il y a beaucoup de facteurs qui sont là, qui changent la donne.
Au début de la conversation, vous avez évoqué, vous avez dit parfois, c'est commande, un peu on me propose des projets. Quel rapport vous avez avec le disque en général? Est-ce que vous... C'est souvent comme ça ou vous avez vraiment...
Oui, on discute quand même pas mal. Vous
avez des envies quand même.
D'abord, c'est pas si facile maintenant. Et puis évidemment, des pianistes qui jouent du répertoire assez traditionnel comme moi, ils s'attendent quand même à vendre peut-être un peu plus qu'avec ton répertoire. Donc ils aiment bien que je fasse quand même certaines choses qui sont plus sécures au niveau des ventes. C'est toujours des compromis. Moi, je suis bien content de leur faire les Chopin qui vont bien vendre, tout ça, qui vont être plus faciles à vendre. S'ils me laissent faire aussi, par exemple, ils croyaient que ça n'allait pas très bien vendre. Et déjà là, après quelques mois, ça s'est très, très, très bien vendu, justement, parce que je crois qu'il n'y a pas tellement de gens qui ont voulu faire toutes les années. Je crois que les gens étaient curieux d'entendre ça. Puis finalement, bon, tout de suite, ils m'ont contacté pour que je fasse d'autres projets listes, alors qu'au départ, ils n'étaient pas... Ils avaient peur que Liszt vende peut-être pas tellement. Alors moi ça me plaît bien qu'ils aient changé d'avis. Comme ça.
Il y a une frustration parfois justement par rapport à cette donnée commerciale que vous avez citée, c'est-à-dire de parfois de voir un peu de temps en temps enregistrer des choses évidemment que vous choisissez, que vous approuvez artistiquement, musicalement, mais peut-être vous aimeriez aller peut-être, je sais pas, vers des compositeurs plus obscurs, moins connus, ou des œuvres tout simplement moins enregistrées. Vous arrivez à trouver un
bon
équilibre.
En général, on arrive à assez bien s'entendre. Finalement. Je dirais qu'il y a eu des années plus difficiles où je crois que tout le monde était un peu perplexe. Et puis finalement, il y a une espèce de modus vivendi qui s'est installé. Mais au début, de toute façon, vous avez parlé de ma relation avec Chandos. Bon, à long terme, pour moi, c'est même, une affaire de famille. Parce que maintenant, je travaille avec le grand patron qui avait fondé la boîte, Brian Cousins, et maintenant à la retraite. Donc, c'est son fils qui a tout repris. Donc, on est un peu... Et je le connaissais très bien, parce qu'à l'époque, c'est lui qui faisait les prises de son pour son papa. Donc, on se connaît très, très bien depuis longtemps. Et ça c'est aussi très, très... une chose qui a beaucoup d'importance dans il y a un climat de confiance qui s'établit. Et puis il y a toute une opération séduction, c'est sûr. Bon, le Liszt, j'ai dû les pousser pour faire les années de pèlerinage. C'était pas nécessairement très preneur. Il y a aussi une question de goût personnel. Bon, Liszt, c'est pas nécessairement la cup of tea de tout le monde, voilà. Donc
Justement, sur ces anniversaires, comme ça, quand il y a les bicentenaires, des choses qui sont finalement beaucoup plus célébrées depuis une dizaine d'années, alors qu'avant, on faisait moins attention. Maintenant, c'est vrai qu'on aime bien trouver le 200e, 250e anniversaire. Donc, il y a un côté, effectivement, ça permet parfois de remettre en avant.
Voilà, pour moi, c'est une excuse comme une autre. Parce que finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va surtout puiser, je crois, dans des choses qu'on a lues quand on était très jeune. Je crois que la plupart des pianistes, quand ils sont adolescents, ils ont une curiosité incroyable. On a tous une curiosité de lire des tas de pièces. Et puis, c'est plus tard qu'on se dit « Ah, j'aimerais bien revenir là-dessus. » Et puis, mais quoi ? Il y a tellement de choix. On est passé à travers tellement de musique. Et avec le temps, il faut prendre des décisions parce que ça passe vite.
Ça passe vite. Ouais. La curiosité, justement, c'est un carburant essentiel, même aujourd'hui. Toujours, ça doit rester en permanence.
Oui, ça doit rester en permanence, sauf qu'il y a un moment où on veut quand même prendre le temps de faire les choses avec un peu plus de densité, un peu plus de distance. Et c'est important. Je crois qu'on devient plus difficile sur ce qu'on laisse passer aussi comme produit, puisqu'il s'agit d'un disque, on peut parler d'un produit. Donc, je crois qu'on devient quand même plus difficile avec soi-même. Quand on a 25 ans, bon, je sais pas, quand j'ai fait ma première intégrale Ravel, j'ai fait ça quand même assez rapidement. Et maintenant, j'aime mieux quand même. J'essaie de jouer des choses que j'ai lues il y a plus longtemps. Bah, je dis ça, puis là, je viens juste d'enregistrer le concerto de Lutoslavski et je l'avais jamais fait. Il y a un côté aussi de la jeunesse qu'on veut garder. Des défis comme ça à court terme, ça reste toujours bon d'en garder.
Pour finir sur ces années de pèlerinage, vous aviez une version de chevet dans les intégrales qui ont été enregistrées dans l'histoire du disque. Est-ce que vous aviez quelques versions qui vous ont...
Oui, j'avais écouté quelques versions. J'étais entre autres fasciné par... moi, j'aime beaucoup les instruments d'époque, finalement. Bon, j'en joue pas tellement parce que c'est toujours compliqué. En concert, quand on fait des tournées, il y en a beaucoup de ces instruments qui fonctionnent. Si on a une petite salle de 200-300 personnes, puis il faut le bon technicien. C'est déjà tellement compliqué, même avec les instruments modernes, pour qu'ils soient en bon état, que voilà, je ne me suis pas lancé là-dedans. Mais j'avais beaucoup aimé, à l'époque, la sonorité des enregistrements d'Eka avec Bolette. Qu'il avait fait sur un vieux Beckstein. Et puis, moi, j'aime beaucoup... bon, prochainement, par exemple, je vais les faire sur un Steingraber. Parce que je m'entends très bien avec le patron de la... Ça existe encore. C'est une boîte qui a quand même été fondée à l'époque, une fabrique de pianos, à l'époque de Liszt à Bayreuth. Ça existe encore. Ils font encore ils fabriquent encore des pianos de très, très grande qualité. Moi, j'aime bien encourager comme ça un outsider qui, malgré l'hégémonie de 2-3 grandes marques maintenant de pianos, essaie quand même de produire quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, moi, ça vient me chercher, ça. Et voilà, donc j'aime bien des pianos comme ça qui vont retrouver les vieilles sonorités de certains pianos allemands du 19e siècle. Je trouve ça fascinant.
Vous êtes le son, la sonorité, justement, en termes d'enregistrement, par exemple, c'est quelque chose qui vous... Oh oui, fascine, c'est
très... je suis très prêt. Et c'est pour ça qu'avec Shandos, on s'entend aussi très bien. Parce que des fois, on passe quand même beaucoup, beaucoup de temps à régler une prise de son, à essayer des pianos. Par exemple, une chose qui me touche beaucoup de Ralph Cousins, c'est un maniaque de piano. Dès qu'il y a une note qui n'est pas bien accordée ou quelque chose, il n'endort plus la nuit. Et moi, ça me plaît parce qu'évidemment, moi, je suis dérangé par ça. J'ai l'impression des fois que c'est seulement les pianistes qui sont un peu... qui exagèrent avec ces problèmes-là. Et là, de voir un producteur de disques qui me dit même d'emblée, j'aime pas trop enregistrer le piano, parce qu'il y a toujours des problèmes avec les pianos, je me dis, ah, enfin quelqu'un qui l'a compris, qui me comprend. Et puis là, pour l'enregistrement des années, bah, ça fait justement des années qu'en Angleterre, j'ai cherché la situation idéale. Et là, on a deux Fazioli complètement différents à disposition, avec des techniciens aussi différents. Donc, on jauge, on essaie des choses différentes. Et là, pour les années, vraiment, on a eu un instrument Fazioli que j'avais pas utilisé avant, parce que le Fazioli, en général, est un instrument assez aérien, assez... au niveau des basses, par exemple, c'est pas des basses à l'allemande. Mais là, celui-là, il les avait, et même plus. Donc, elles sont même un peu ronflantes. Même, je crois qu'il y a des gens qui ont critiqué ça, que les basses étaient peut-être un peu trop puissantes dans l'enregistrement des années. Mais justement, j'aimais ce côté un peu peut-être exagéré, très orchestral, très dense. Donc, c'était intéressant d'utiliser cet instrument. Thank you.
sur le choix des répertoires, vous avez un petit peu évoqué. Comment vous fonctionnez, comment vous avancez, et est-ce que c'est finalement ça se fait step by step, comme disent les anglo-saxons? Mmh. Est-ce que quand vous vous arrêtez et vous regardez derrière vous tout ce que vous avez fait au disque, la façon dont vous avez abordé tout ça, ça s'est fait finalement au fil des rencontres aussi parfois et des envies, ou vous avez vraiment une vision très précise de où vous alliez et où vous, là, vous voulez aller, ou où vous ne voulez pas aller?
Oui, bah j'envoyais quand on a repris, parce qu'on a eu une interruption au moment de la passation de pouvoir du père au fils chez Chandos, donc on a eu une interruption, et après, quand on a rediscuté, je lui ai proposé simplement de lui envoyer des dossiers avec les idées que j'avais pour les... J'avais déjà un peu un plan pour les 10 prochaines années, donc j'ai envoyé ça, et il était plutôt d'accord avec mes idées. Donc, on fonctionne comme ça. Et puis, avec le répertoire orchestral, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que ça dépend des disponibilités des orchestres, des chefs avec lesquels ils travaillent. Et puis moi, franchement, pour vous dire les vérités, enregistrer avec orchestre, je trouve ça assez pénible parce qu'il n'y a pas assez de temps. On est tellement gâté quand on fait du solo parce qu'on peut s'arrêter quand on veut, on peut écouter toutes les versions qu'on a fait, toutes les takes. Alors c'est un peu ennuyeux avec orchestre d'être dans le noir comme ça, parce qu'on ne sait pas trop. Finalement, on sort de là, on est épuisé parce qu'il a fallu reprendre je ne sais plus combien de fois les passages parce qu'un instrument a gâché ici ou là, ce qui est normal quand ils font des sessions comme ça énormes. Les gens commencent à perdre la concentration et après on sait qu'il va y avoir pas mal de coups de ciseaux, donc... On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est plus angoissant. C'est encore plus angoissant. C'est toujours angoissant, mais c'est encore plus angoissant.
Comme c'est angoissant, c'est pour ça que vous prenez la baguette vous-même de temps en temps?
Ah. Pour... Oui, mais ça, je ne l'ai pas fait sur disque. Ah non, ça, je l'ai pas. Ah, mais oui, je l'ai fait une fois, c'est vrai. C'est pour une petite trahison, avant que je reprenne sur Chandos.
Trahison.
Je l'ai fait avec Atma. Oui, mais ça, c'était à la maison. J'avais dit que c'était à la maison parce que c'était à Québec.
Et même quand ce n'est pas au disque, quand c'est pour la scène, c'est quelque chose.
Ah, j'adore ça. C'est... Ça, c'est quelque chose de formidable, d'abord au niveau humain, parce que d'être toujours avec un piano. On peut être tyran comme on le veut, on peut être vraiment très dur avec un piano, on peut faire ce qu'on veut. Le piano ne va jamais être embêté avec vous. Mais avec les musiciens, c'est tout de suite l'humain qui compte. Comment on leur dit les choses? Comment réussir à faire des choses à des êtres humains? C'est complètement une autre psychologie.
Un bon chef, c'est un bon psy aussi, un peu, d'une certaine manière.
Tout à fait. C'est même un médium, quelque part. Mmh. Parce qu'il faut sentir les orchestres. Comment on fait pour sentir tout un orchestre et avoir la bonne attitude? Il n'y a pas une attitude préfabriquée avec chaque orchestre. Ça ne peut pas marcher comme ça. Bon, il faut rester ce que l'on est, mais il faut aussi sentir. C'est comme avec les êtres aussi. On peut pas... C'est toute une dynamique qui s'installe tout de suite. Et on parlait d'opération séduction, il y a ça aussi. Hein. C'est un peu... Si on veut que ça marche vraiment bien, il faut qu'il y ait un peu d'amour, un peu de désir, en tout cas, au moins, entre les parties.
Est-ce que ça veut dire que quand vous dirigez justement du piano, vous êtes un peu sorte de bicéphale, c'est-à-dire que...
Oui, ça c'est le plus facile, parce que quand on joue, les musiciens ont toujours beaucoup de respect pour les interprètes. Le problème, et là je vois que ça doit être très difficile, ça aussi je me suis rendu compte, les chefs d'orchestre, ils ne peuvent même pas prouver qu'ils savent vraiment comment ça fonctionne, à moins qu'ils jouent du violon et qu'ils piquent le violon du premier
violon.
Et puis pour leur montrer qu'ils savent de quoi il est en train de parler. Mais moi c'est formidable, je leur parle d'une ligne, d'un phrasé, je peux leur montrer tout de suite. Et là je vous dis qu'évidemment ça les impressionne beaucoup plus que de juste faire du blabla ou de grands gestes.
Mais est-ce que ça veut dire que vous seriez tenté de, pourquoi pas, d'avancer plus dans cette direction et de diriger plus, tout simplement?
J'en fais déjà pas mal. J'ai fait déjà quelques concerts par année. Pour moi, ce qui est important, comme j'en fais pas beaucoup, je veux vraiment bien le faire. C'est-à-dire que je fais tout par cœur. Je connais vraiment bien le répertoire que.
En termes de travail, ça demande.
Oui, parce que d'abord, en tant qu'interprète qui joue normalement toutes les notes. Pour moi, c'est important. Par exemple, si je fais une symphonie, même très complexe, je dois pouvoir la réduire au piano. Pour moi, c'est très, très important de pouvoir comprendre la production du son.
Est-ce que les pianistes qui sont passés à la baguette, c'est des musiciens qui vous fascinent, qui vous intéressent?
Oui, non, mais je crois que c'est une tendance, définitivement, maintenant. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont envie. Moi, je le conseille à tout le monde, même s'ils ne se sentent pas d'attaque pour faire ce genre de carrière. Je crois qu'il faut comprendre. Aussi, on travaille beaucoup mieux avec les chefs d'orchestre. On les comprend beaucoup mieux. Parce que ce n'est pas des relations très faciles, en général, solistes et chefs d'orchestre. D'abord, parce que, comme on le sait, les chefs d'orchestre sont sous pression. Ils ont de moins en moins de répétitions. Ils nous foutent les concertos à la fin en général, avec très peu de temps. Donc, les conditions ne sont pas les meilleures pour faire des rencontres très, très agréables. Donc, il y a beaucoup,
c'est du speed dating.
Friction. Oui, oh, pas mal. Exactement. Donc, il y a beaucoup de friction en ce moment, je trouve, à cause des moyens. Il y a plus de temps.
Ce que je vais vous demander, comment vous voyez un peu l'évolution? Vous avez commencé votre carrière assez jeune, vous avez été rapidement sous les sunlight, assez jeune. Comment vous voyez justement l'évolution de tout ça? Aussi bien, vous avez parlé un peu tout à l'heure, ce qu'on sait, la crise du disque en partie, même sur les musiciens eux-mêmes, l'évolution de l'éducation musicale et des concerts, de tout ça, vous dites qu'il n'y a plus de temps. C'est une accélération qui fait que ça impacte aussi les musiciens.
Il y a ça, mais il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, en vieillissant aussi, je crois qu'on a... envie de prendre quand même un peu plus de temps. Je crois qu'au début, c'est tout nouveau, tout ça. On se dit, ah, c'est magnifique, c'est formidable de rencontrer tous ces gens doués, tous ces chefs, tous ces orchestres. Et puis, à un moment, on répète les mêmes concertos et on se dit, mais là, je voudrais quand même prendre le temps d'aller jusqu'au fond de tel détail, tel truc. Et c'est pas... On voit qu'il y a quand même du préfabriqué beaucoup. Là, pour vous donner un exemple, on peut presque plus, par exemple, faire des concerts. C'est pour ça aussi les gens se demandent pourquoi on joue pas beaucoup de musique contemporaine ou beaucoup de... juste des concertos pour piano, par exemple, qui ont été écrits dans les 70 dernières années. Ben, j'ai pas très envie de les faire au concert parce que si on me donne pas 3 répétitions, qu'est-ce que je peux faire? Comment on peut faire ça correctement? On peut peut-être le faire, mais avec un stress tellement énorme et des résultats des fois un peu approximatifs. Alors que c'est sûr que si on fait, je ne sais pas moi, le sol majeur de Ravel, que maintenant on peut aller faire aussi bien en Australie que sur la côte ouest des États-Unis, tout le monde connaît cette musique parfaitement maintenant. Je veux dire, vraiment très très bien. La pratique de cette musique est maintenant acquise. C'est pas la même chose. Donc on peut placer des choses, on peut placer des idées assez rapidement parce que les gens connaissent bien le répertoire et ils n'ont plus trop à regarder même la partition à la limite. Ils savent très bien. Mais ça dépend de la préparation aussi des musiciens, ça dépend de l'attitude. Il y a des endroits où on arrive et on a l'impression qu'ils ont déjà travaillé quand même avant d'arriver aux répétitions. Ça, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Oui, parce que nous, c'est comme ça qu'on travaille. Quand on fait de la musique de chambre, c'est comme ça aussi. Donc...
Est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière, vous aimeriez appuyer un peu sur le bouton pause de temps en temps, peut-être moins enregistrer, moins faire de concerts, si c'était possible, pour justement plus prendre le temps d'approfondir, ne serait-ce que quand une carrière de musicien, on emmagasine, on a une part d'éponge un peu, des œuvres et des œuvres quand même qui sont costauds. On prend les années de pèlerinage par exemple, alors évidemment ce sont des œuvres parfois qui traversent toute votre vie avec vous. Qui vivent avec vous. Mais est-ce que parfois, justement, il y a besoin d'espace, de silence
Ah oui, tout à fait. Il faut toujours... moi, j'essaie toujours d'avoir des semaines où il ne se passe pas grand-chose pour faire le vide. Non, mais même physiquement, il faut faire ça. C'est quand même pour la musculature, les nerfs. C'est quand même une pression.
Est-ce que c'est énorme. Un besoin aussi pour le style, tout simplement, ne serait-ce que pour... J'ai retrouvé une citation de vous, vous avez dit, lorsque vous êtes jeune, vous avez tendance à mélanger un peu les styles et votre Beethoven sonne parfois comme votre Mozart et votre Schumann se mélange avec votre Brahms. Et voilà, ce qui prend du temps, c'est effectivement d'affiner tout ça. Est-ce que le temps est vital par rapport à tout
ça? C'est tellement de facteurs qui font. Je crois que c'est aussi la recherche. Que l'on fait aussi avec les partitions, je veux dire, il faut quand même prendre le temps. Moi, plus je vieillis, plus j'étudie, plus que de jouer comme tel. Je crois que le côté athlétique de jouer du piano devient de moins en moins important. J'essaie en tout cas de concentrer de plus en plus l'énergie pour que je passe plus de temps. Bon, comme on voyage beaucoup, je passe quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et je m'intéresse aussi, bon, dans certains répertoires, à ce qui se découvre au niveau musicologique. Je crois que ça peut être aussi assez fascinant. Bon, par exemple, surtout avec des auteurs comme Mozart ou le phrasé, les concepts d'articulation et tout ça, ça a tellement évolué, ça change tellement. Hein, il faut discuter. C'est aussi fascinant de travailler avec des collègues qui ont des idées fraîches et qui savent... c'est pour ça que pour moi, c'est très important de travailler avec de la musique de chambre, avec des chefs différents avec qui j'apprends beaucoup.
Quelles sont justement les rencontres, les collègues, chefs ou
autres musiciens qui vous ont vraiment... Je pense toujours à ce qui vient tout de suite. Ouais. Bon, là, je vais jouer avec Augustin Dumay à Montpellier la semaine prochaine. Et c'est quelqu'un qui a une très grande pratique de Mozart, de Beethoven, tout ça, qui y pense depuis très très longtemps. Et en même temps, bon, on n'est pas exactement de la même génération, mais on a entendu beaucoup des mêmes choses qui nous ont fascinés. Donc il y a une discussion. Et on se connaît assez bien aussi pour se provoquer. C'est important de provoquer aussi.
Vous écoutez beaucoup ce qui se passe actuellement, la jeune génération de pianistes, que vous allez au concert. Parfois, j'imagine quand vous êtes dans des festivals, avant de jouer ou peut-être après, vous restez, vous entendez d'autres choses. Comment ça fonctionne? Ou est-ce que vous avez plutôt tendance à peut-être moins écouter qu'autrefois ou,
Non,
vous
c'est, toujours une c'est différent. Je crois qu'il y a quelque chose maintenant, évidemment, de très très compulsif, avec une chose magnifique, mais en même temps diabolique, qui s'appelle YouTube, où on peut aller tout de suite voir. C'est sûr, quand on est très curieux, et qu'on a des moments de doute, tout ça, on se dit tiens, je vais aller voir un peu, mais on découvre des choses formidables, on découvre des choses du début du XXe siècle, on ne savait même pas que ça avait été enregistré, des interprètes, ou des gens qu'on ne connaît pas du tout, ça aussi c'est formidable, des gens qu'on n'avait jamais entendu parler, et qui des fois ont seulement 2-3 trucs qui ont été enregistrés il y a longtemps sur YouTube. Dernièrement, j'ai rencontré un pianiste allemand qui vit à Taïwan depuis 25 ans. Je l'ai contacté, il se demandait comment. Mais j'ai dit, je vous ai connu par YouTube parce que j'ai entendu un très beau concert que vous avez fait. Sinon, je n'aurais jamais su qui était ce type qui vivait à Taïwan depuis toujours. Donc, c'est ça, pour ça, c'est assez formidable.
Justement, le voyage, les publics, vous êtes québécois, vous avez vécu longtemps, vous êtes entre Berlin, je crois, et l'Italie, le lac de Côme, plus tous les voyages, les publics, etc. C'est quelque chose, ce côté international, alors la musique sans frontières, le cliché, mais aussi une réalité. Est-ce que, comment tout ça fonctionne sur votre musique, les réactions des publics en fonction des pays, en fonction des lieux, les répertoires qui sont mieux perçu de telle manière à tel endroit et à tel autre endroit. Est-ce que finalement, il y a vraiment des changements? Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à l'évolution de la...
C'est surtout des façons de travailler, je dirais, parce que finalement, bon, le public, c'est toujours assez subjectif. Mais la façon de travailler, ça, c'est quand même très, très différent d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. On parlait des orchestres, par exemple. Ça c'est quand même important de savoir combien de temps ça va prendre à un orchestre pour piger certaines choses, ou s'ils auront envie de faire tel répertoire, ou si la combinaison de tel chef, de telle origine, avec tel orchestre d'une autre nationalité, il faut penser. C'est ça qu'on apprend à connaître plus, je crois, avec le temps. Finalement, de tenir des conditions optimales pour la situation culturelle où on se trouve. Voilà, ça c'est important, ça vaut pour les pianos aussi. Il y a des endroits où on a une tendance à harmoniser les pianos d'une certaine façon, et si on le sait, voilà, on se dit, là je ne pourrais pas faire ce répertoire. Ou même des fois, il y a des endroits où on aime bien aller, mais on sait que le piano est un peu moyen, et que ça peut passer peut-être pour Beethoven, mais pas pour Prokofiev, pour toutes sortes de raisons. Donc voilà, je crois que c'est toute cette expérience-là qui s'accumule et qui fait qu'on essaie d'obtenir... les conditions maximales. Maintenant, par rapport au public, moi, j'y crois pas. J'y crois plus ou moins à ça. C'est plutôt la façon d'accueillir les artistes à la fin des concerts qui est très différente. La façon de montrer son appréciation. Mais pour moi, ça reste toujours... De toute façon, à chaque fois que les gens viennent me demander si j'étais content, je leur dis, je suis jamais content. Je peux être plus ou moins satisfait. Mais pour moi, c'est toujours une expérience qui me permet d'aller plus loin. C'est toujours... Il n'y a pas de produit fini.
Sur les musiciens ou les orchestres, il y a finalement des orchestres de certaines nationalités avec lesquels ça matche plus facilement qu'avec d'autres, vous avez l'impression dans votre...
Oui, certainement, il y a des façons de travailler, mais encore une fois, ça dépend aussi beaucoup, beaucoup du répertoire. Et je le sais un peu avant quand même. Là, je viens d'enregistrer le concerto de Lutoslavski avec le BBC Symphony. Je savais que cet orchestre a une pratique de la musique moderne exceptionnelle, mais ils m'ont vraiment bluffé parce qu'ils étaient d'une patience. Moi, dernièrement, j'avais joué avec des orchestres, tout le monde me disait « Oh, vous allez voir, ils sont fatigués, c'est la fin de la saison, tout ça ». Et j'arrive à Londres et ces gens mais bossaient comme des malades, on est presque à la fin de la session, je me suis dit « Ils vont craquer » parce qu'on avait dû reprendre certains passages. Pas du tout, une patience, ça c'est une leçon quand même de voir ça, des gens travailler quand même dans des conditions extrêmement difficile. Moi, ça, c'est le genre de choses qui me stimule.
C'est ce que j'ai vous demandé. Est-ce que vous, justement, vous avez dit tout à l'heure, finalement, j'étudie plus, par exemple, je prépare plus, je me renseigne plus qu'autrefois. Est-ce que, justement, c'est la même chose aussi au niveau de votre jeu? Vous avez l'impression que vous êtes plus exigeant, même encore aujourd'hui, plus qu'autrefois? Vous avez allé vers une exigence plus puissante?
J'espère, je le souhaite. C'est comme ça que je perçois les choses. Mais on essaie de faire le maximum avec les conditions qui nous sont données. Mais je crois qu'il faut savoir dire non aussi. Quand on sait qu'un orchestre ne peut pas donner plus que cela ou qu'un piano ne peut pas. Il faut juste être capable de juger. Il faut bien connaître le terrain.
C'est quelque chose, ça, justement, cette exigence qui vous a été transmise. Pourquoi? Par les maîtres que vous aviez en vous depuis le début? Est-ce que... Ou qui s'est fait finalement aussi?
Sûrement aussi, mais je crois qu'on est un peu comme ça. Je crois qu'il faut être comme ça, sinon... Finalement, c'est par rapport à nous-mêmes, je crois, vraiment. C'est par rapport. Je crois qu'on doit se sentir très, très coupable d'être n'être qu'un interprète à côté. Non, mais quand même, c'est vrai, je veux dire, on côtoie des génies quand même incroyables. Nous, on fait que reproduire ça avec plus ou moins d'instinct et de connaissance. Mais il y a quand même un décalage, il faut bien le dire, entre le fait que la plupart des compositeurs prennent des années, des fois, à concevoir un chef-d'œuvre, et nous, on se permet, en quelques mois, de le pondre, ce truc. Donc, il y a, au niveau de la production, il y a quelque chose d'un peu faux, quand même, non? Il y a quelque chose d'un peu démagogique. C'est tellement devenu facile, maintenant. Puis, on regarde la jeune génération, ils apprennent encore plus vite. Mais se sont-ils dit quelque part que peut-être, oui, que au fond, Beethoven, s'il avait réfléchi à cette symphonie ou Brahms pendant 10 ans, il faudrait peut-être que moi aussi, je prenne le temps de réfléchir un peu plutôt que de me dire, bon, j'ai le feeling et puis j'ai entendu 50 versions, donc je sais ce que je vais faire.
C'est votre définition de l'interprète, ça, tout ça, un peu tout ce que vous venez de dire, de ce qu'est un interprète.
Peut-être, c'est-à-dire qu'il y a... Bon, on a plus, c'est plus comme autrefois où les interprètes étaient aussi, se devaient presque. Si on regarde au début du XXe siècle, fin du XIXe, les chefs d'orchestre, les grands interprètes, ils étaient tous aussi compositeurs. Il y a plus la même, je crois qu'il y a plus les mêmes connaissances. C'est maintenant des connaissances beaucoup plus techniques.
Qu'est-ce que j'allais dire,
de l'instrument et puis. On reproduit, voilà, on est dans l'âge de la reproduction, donc on reproduit beaucoup, beaucoup ce qu'on a entendu avant nous. Et on ne peut pas dire qu'il y ait excès de personnalité, mais par là, je veux dire personnalité justifiée par rapport à l'œuvre que l'on joue aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens maintenant qui se disent « Ah, moi, j'ai envie de faire ça comme ça ». On perd beaucoup aussi le sens de l'histoire. Ça peut être assez grave aussi.
Vous pensez que c'est dû à quoi, à la virtuosité? Parce que finalement, c'est vrai qu'avec tout ce que vous venez de dire, les écoles, on a finalement des pianistes qui, techniquement, parfois des jeunes pianistes, qui sont des sortes de brutes
de
technique.
Oui, mais je pense que c'est le market, le marché, où vraiment on veut tout de suite des sensations, on veut attirer, on veut vendre rapidement, que ce soit les concerts, on panique si on ne vend pas assez, parce qu'on sait qu'il faut pour persister, il faut qu'elle... les caisses soient pleines. Alors on veut continuer, le disque, on veut essayer de faire survivre le compact disque ou les ventes en ligne ou quoi que ce soit, ou le concert. Donc on essaie de trouver des choses qui vont exciter. Voilà, on vit dans une période où on veut exciter le consommateur par tous les moyens. Et bon, moi, l'excitation, c'est très intéressant quand vous avez 18-19 ans. Après, ça change un peu quand même.
Quel rôle justement vous vous donnez dans toute cette situation que vous venez de décrire? Est-ce que, entre quelque chose de vous, vos envies, quelque chose de personnel et une... planète marketing ou autre, qui est ce qu'elle est.
Non, mais moi j'ai une chance inouïe d'abord d'avoir la même compagnie. Je crois qu'il y a très peu de gens de ma génération qui n'ont jamais changé de compagnie de disques comme ça. C'est quand même fabuleux.
Qui se jarrette avec ECM,
peut-être. Oui, oui. Non, mais c'est formidable d'avoir qui n'a jamais eu de doute, qui n'a jamais eu. J'ai pu continuer avec le même type de liberté. Donc tout s'est fait finalement à long terme. J'ai commencé très très tard, au fond, comparé à ce qu'on voit maintenant, quand on voit les jeunes Asiatiques qui sont déjà 12-13 ans. Si on pense aux nouveaux qui sont sortis là dernièrement, Lang Lang, Yu Jiawang, des gens qui ont joué beaucoup déjà avant l'âge de 20 ans. Moi, à 25 ans, je commençais à peine. Donc, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à long terme. Je me suis jamais senti vraiment brûlé. Vous parliez tout à l'heure de faire des arrêts et tout ça. Oui, c'est agréable de faire des pauses. Mais je ne crois pas que j'ai été brûlé jamais à un point où j'ai dû arrêter pendant 2 ans et dire voilà, là, il faut que j'arrête tout parce que j'en ai trop fait.
Vous avez envie de quoi pour les années à venir, au disque, au concert, par rapport à votre art et votre piano? Vous avez des envies précises ou vous laissez le temps aller?
Oui, mais il y a toutes sortes de trucs. Par exemple, un compositeur que j'adore et je voudrais le faire, mais je ne sais pas si j'ai envie de le faire vraiment en public. Puis en plus, comme j'aime beaucoup la musique baroque, jouer sur instruments d'époque, c'est Bach. Mais j'aimerais beaucoup le jouer au clavecin parce que j'adore le clavecin. Par hasard, dernièrement, j'avais un concerto de Bach programmé pour une des premières fois avec un orchestre. Et j'avais à disposition, j'ai demandé si je pouvais avoir un clavecin, ils ont accepté. J'avais un petit orchestre et on a tous joué un peu à la baroque. Et j'ai trouvé ça fascinant, je me suis dit au fond, j'ai très envie de faire quelque chose comme ça, parce que j'en ai fait pas mal adolescent, donc j'aurais envie, si je fais une pause par exemple, j'aimerais bien faire Bach, Rameau, Couperin, ça pourrait être très agréable pendant un an, sans pression. Je ne sais même pas si je jouerai vraiment en concert, peut-être. C'est pas avec une idée de production, mais juste pour le plaisir personnel de rentrer dans cette musique. C'est un peu la même chose, je dirais, aussi, avec peut-être avoir plus de temps pour la musique de notre époque.
Ce que j'allais vous demander, justement, les musiciens contemporains, la musique contemporaine, voilà. Pouvoir travailler avec des compositeurs.
Ça serait pas mal. Bon, je l'ai déjà fait un peu avec Thomas Hades, par exemple, en Angleterre. J'ai joué quelques-unes de ses œuvres et ça serait intéressant de faire un vrai projet et de peut-être dans du ski, par exemple, tout ce qu'il a écrit avec piano ou avec, sous sa supervision. Et ça pourrait être pas mal, quelque chose comme ça. Bon, ça, il faut du temps.
Ça fait pas mal de projets. Bien, merci Louis Lortie. Je rappelle que donc l'intégrale des années de pèlerinage est disponible chez Chandos comme tout le reste de votre discographie. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
www.francebleu.com. Rencontre par Marc Zisman.